Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée par Corentin Mansois, Léa Capuano, Maïder Gérard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et à la technique ce matin, Alexandre Dang. Dernier volet de notre série consacrée à l'Espagne qui vote ce dimanche pour renouveler son Parlement. Fractures espagnoles, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours en 4 épisodes. Lundi, nous avons parlé de l'explosion du paysage politique. Mardi, des impacts de la crise économique sur la société. Et enfin, hier, de la question des droits des femmes au cœur de cette campagne. Mais ce matin, place à l'une des questions les plus sensibles en Espagne, celle de l'unité de la nation. El Pueblo Unido, point d'interrogation. C'est notre sujet jusqu'à midi.
Les indépendantistes ont le droit de savoir que l'indépendance n'aura pas lieu. Ils savent que le problème en Catalogne n'est pas l'indépendance, mais la cohabitation. Avec un gouvernement socialiste, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de référendum pour l'indépendance, et la Constitution ne sera pas violée.
De la Constitution espagnole.
Ce qui est inacceptable, c'est que vous avez conclu un accord avec ceux qui veulent diviser l'Espagne. C'est incroyable que vous ne soyez pas prêt à dire que vous ne gracierez pas les prisonniers s'ils sont condamnés par la Cour suprême. Enfin, dites-le.
Je veux un Premier ministre qui ne se met pas à genoux devant ceux qui veulent détruire l'Espagne. Un Premier ministre qui soutient l'Espagne et rejette les nationalistes. Je veux l'indépendance, oui, mais être indépendant de Quim Torra, de Carles Puigdemont et de ceux qui crachent sur l'Espagne.
Beaucoup de gens nous regardent et sont peut-être troublés à l'idée que nous ayons des drapeaux différents, des gens qui ont des opinions différentes et qui parlent des langues différentes. Et si nous cherchons ce que nos concitoyens ont en commun, peut-être nous pourrions trouver des exemples. Quand quelqu'un va à l'hôpital, personne ne lui demande s'il a voté pour le Parti populaire, s'il est séparatiste ou s'il est socialiste.
Ce fut un véritable séisme dans la vie politique espagnole dont l'onde de choc se fait encore ressentir aujourd'hui. Le référendum d'autodétermination organisé illégalement le 1er octobre 2017 par les autorités catalanes est aujourd'hui au cœur de la campagne. Le procès des leaders indépendantistes est en cours. 12 dirigeants comparaissent devant la Cour suprême pour délit de rébellion et de sécession. Tandis que l'on observe l'émergence d'un nouveau parti d'extrême droite, Vox, nourri d'un nationalisme qui n'avait jamais été aussi exacerbé depuis la mort du général Franco. Près de 45 ans après la fin de la dictature, le consensus national forgé lors de la transition démocratique semble se fissurer. Loi d'amnistie pour tous, rétablissement de la monarchie et reconnaissance des particularités régionales furent à l'époque les composants du ciment de l'unité nationale. Alors qu'en est-il aujourd'hui après la crise catalane, mais aussi face aux besoins d'une partie des Espagnols de revenir et peut-être de juger enfin les crimes du franquisme. Quels sont encore les piliers de l'unité nationale espagnole aujourd'hui? La monarchie parviendra-t-elle, comme par le passé, à rassembler la nation espagnole? Pour répondre à ces grandes questions, nous sommes en compagnie ce matin de deux invités. Cyril Trépied, bonjour.
Bonjour Mélène Charles.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, chercheur à l'Institut français de géopolitique à Paris 8. Vous êtes l'auteur avec Manuel Pelloil et Serge Buge. Alors,
Manuel Pelloil et Serge Buge.
Merci pour la prononciation. De l'ouvrage « L'indépendance catalane en question ». C'est paru l'année dernière aux éditions Atlante. Et nous sommes également en compagnie depuis les studios de France Bleu Provence à Aix-en-Provence de Sophie Babi. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Vous êtes co-auteur avec Jordi Canal et Stéphane Michonneau de l'ouvrage « Histoire de l'Espagne contemporaine de 1808 à nos jours, politique et société ». C'était paru chez Armand Collin en 2017. On commence avec vous, Sophie Babi. Donc il y a ce procès des indépendantistes catalans qui s'est ouvert en février. Il devrait continuer jusqu'au mois de mai. C'est évidemment au cœur de la campagne, hein, on vient de l'entendre. C'est un sujet extrêmement sensible et hautement politique. Sophie Babi, est-ce que d'une certaine manière, c'est l'unité de la nation espagnole qui est en jeu dans ce procès?
Oui, alors je ne sais pas si c'est dans ce procès ou dans tout ce qui se passe en Catalogne depuis quelques années, plutôt, hein, et cette question de la nécessité d'un référendum ou du besoin qu'ont les Catalans, des indépendantistes catalans, de faire un référendum, n'est-ce pas ? Mais c'est un processus qui remonte à une dizaine, une quinzaine d'années, on va dire, et qui met en question effectivement le consensus national et qui suscite des interrogations sur la configuration territoriale telle qu'elle a été pensée et conçue au moment de la transition à la démocratie et donc qui est celle de la démocratie actuelle. Et une question aussi autour du nationalisme espagnol hein, et de quels sont les facteurs d'identification, les valeurs auxquelles s'identifier pour la nation espagnole dans le futur.
Alors, les indépendantistes parlent de procès politique hein, pour ce procès. Ils dénoncent le fait que le tribunal suprême espagnol, qui est de fait garant de la Constitution et donc de l'unité qui est inscrite dans la Constitution, serait en quelque sorte juge et partie. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Trépied ? Est-ce que le procès qui est en train de se dérouler en ce moment est une sorte de procès politique ?
Non, ce n'est pas un procès politique. Tout d'abord, même si on ne l'a pas dit, ce ne sont pas des opinions qui sont jugées. L'aspiration à l'indépendance, elle est toujours au pouvoir en Catalogne au terme des élections du 21 décembre dernier en Catalogne. Et une partie des plus hauts dirigeants, effectivement, politiques et associatifs de l'indépendantisme, sont jugés parce qu'on leur reproche d'avoir tenté de remplacer l'ordre constitutionnel espagnol par un autre ordre juridique qui serait strictement catalan et d'avoir passé outre les avertissements non seulement du tribunal constitutionnel mais aussi des propres juristes du Parlement catalan en votant non seulement la possibilité de faire un référendum en septembre 2017, mais aussi un texte destiné à remplacer la constitution espagnole en vue d'une constitution catalane. Et ce texte a été voté à l'arraché, très loin des conditions qu'exigent ne serait-ce qu'une réforme du statut d'autonomie catalan.
Les chefs d'accusation, je l'ai dit rapidement, ce sont ils comparaissent pour rébellion et sécession. Le délit de rébellion notamment est difficile à caractériser en droit. Il faut prouver qu'il y a eu emploi de la violence et de manière publique. Et c'est là effectivement qu'achoppe un peu, en tout cas sur lesquels les avocats et de la défense et du parquet et de l'accusation. C'est un peu le cœur du procès, de savoir caractériser vraiment ce chef d'accusation.
Oui, effectivement. Ce délit est effectivement puni, enfin, strictement interdit par la Constitution espagnole. Alors, la définition de la rébellion, ça va au-delà de la violence physique. Il peut s'agir d'avoir empêché le fonctionnement normal de l'État espagnol et des institutions, en l'occurrence des forces de police, de la justice au niveau régional. Et c'est pas uniquement une question de violence physique. Effectivement, il n'y a pas eu une tentative de guerre civile, mais il y a eu vraiment une tentative complète de remplacement de l'ordre juridique espagnol.
Sophie Babi, il y a un enjeu aussi dans ce procès, c'est la question de la sévérité des peines qui seront prononcées. Pour l'instant, les accusés encourent entre 16 et 25 années de prison. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une peine sévère pourrait avoir un effet dissuasif et clore définitivement l'épisode de la crise catalane ou bien au contraire raviver les tensions ?
Alors, il me semble que le ressort anti-répressif a une longue histoire en Espagne et que la répression n'a absolument pas pour effet de calmer les intentions rebelles, mais au contraire les encourage, hein, je dirais. Donc non, il fait peu de doute que s'il y a une condamnation sévère, cela ne mettra pas fin du tout aux ambitions indépendantistes de ceux qui les proclament aujourd'hui. En revanche, la question de la violence est très importante, effectivement, parce qu'elle va déterminer aussi l'amplitude des peines. Et puis, c'est une question qui a toujours intéressé les des mouvements séparatistes, puisque le nationalisme catalan s'est toujours targué d'être fondamentalement pacifique et de s'inscrire donc dans un jeu politique constitutionnel et de mobilisation pacifique des foules, contrairement donc à son homologue basque, hein, puisque le nationalisme basque, lui, s'est caractérisé par le déploiement d'une violence terroriste extrêmement meurtrière depuis les années, la fin des années 60 jusqu'à la reddition de l'ETA en 2011. Donc cette distinction est fondamentale pour les catalanistes et eux ont toujours essayé de maintenir cette position pacifiste en opposition aux Basques. Ensuite, il y a cette question que vous évoquiez dans les interviews de, enfin dans les retranscriptions du débat électoral entre Pedro Sanchez, la question de la grâce ou pas à venir des futurs condamnés s'ils le sont. Mais ça, il y a évidemment que l'avenir ne pourra nous le dire.
Et on va effectivement continuer à suivre ça, mais on peut peut-être d'ores et déjà se poser la question, est-ce qu'à l'inverse de peines sévères, le fait, alors peut-être même pas à l'inverse, parce qu'ils peuvent être condamnés pour des peines sévères, puis ensuite être graciés, est-ce que ça pourrait là être une manière d'apporter un peu d'apaisement sur cette crise, c'est-à-dire qu'ils seraient reconnus coupables par la justice, mais disons une grâce pourrait permettre peut-être une réconciliation, en tout cas un apaisement entre la Catalogne, les indépendantistes et puis le reste de la nation espagnole. Sophie Babi.
Oui, alors tout dépendra déjà de qui sera élu ce week-end, hein, qui sortira, et puis ensuite de quels accords seront signés entre les différents acteurs politiques, puisqu'en Espagne, hein, on le sait bien, le gouvernement ne fonctionne que par pacte, hein, il y a rarement une majorité absolue. Et ensuite, oui, ce qui est certain dans le processus catalan, c'est qu'il y a à la fois une question juridique, hein, qu'a mentionné mon collègue, mais il y a aussi une question politique centrale, et que la résolution du conflit catalan ne pourra qu'être politique. Après, effectivement, le chemin à suivre sera choisi et négocié, dialogué entre les différents acteurs en présence.
Oui, un sujet hautement politique, c'est ainsi qu'on l'a présenté depuis le début. La crise catalane, elle a eu pour effet, c'est ce qu'on a pu observer, de réveiller un sentiment nationaliste en Espagne qui s'observe notamment à travers l'émergence donc du parti Vox qui se situe sur à l'extrême droite, sur l'échiquier politique et qui se nourrit de ce nationalisme. Alors, il est encore très minoritaire, mais qu'est-ce que ça dit tout de même est-ce qu'on peut parler de réveil, de sentiment national? Est-ce que ça vous paraît juste, Cyril Trépied?
Alors, réveil de sentiment national espagnol, oui. Mais Vox, ça n'est qu'une des manifestations d'un sentiment beaucoup plus large. Et ce sentiment, il n'est absolument pas exclusif de l'extrême droite espagnole, ni même de la droite espagnole. On peut être tout à fait attaché à l'unité de l'Espagne, et être de gauche. Considérer bien avant la situation actuelle que le simple fait que le Pays Basque, dont a parlé Sophie Babi, et la Navarre, ait une autonomie fiscale complète à l'opposé des 15 autres communautés autonomes, ce soit injuste pour les autres. Et effectivement, ces dernières années, sous l'effet notamment du référendum de 2017 en Catalogne, on a vu de plus en plus de drapeaux espagnols aux fenêtres dans le reste de l'Espagne. C'est un sentiment diffus. Et ce drapeau, il n'est, encore une fois, pas du tout la propriété exclusive de la droite ou de l'extrême droite. On peut tout à fait rejeter à la fois aujourd'hui Quim Torra en Catalogne et Pablo Casado, le candidat du Parti Populaire, et Vox, tout en étant attaché à l'unité de l'Espagne. Et c'est le cas d'une petite liste qui se présente dans ces législatives de dimanche sous le nom de Recolte Zero, zéro coupe budgétaire. Et qui est une liste de gauche. Donc oui, il y a effectivement un réveil du sentiment national espagnol, mais avec toute la variété qu'offre la vie politique espagnole.
Un sentiment partagé donc, mais comment est-ce que vous analysez cette résurgence du sentiment national presque au-delà de la crise catalane? Est-ce qu'il est pour vous le signe que l'Espagne réaffirme, réassume peut-être une fierté nationale, ou est-ce que il peut être au contraire le signe d'une fragilité, en fait, cette nécessité de ressortir les drapeaux, notamment parce qu'on perçoit qu'il y a des failles, qu'il y a des fragilités, au contraire.
Alors effectivement, comme l'a dit Sophie Babi, la violence de l'ETA a pris fin en 2011 et l'organisation terroriste a rendu les armes en 2017. Ce qui contribue à faire de la crise catalane la crise la plus grave dans la vie politique espagnole actuellement depuis plusieurs décennies. Mais effectivement, il y a le sentiment d'une urgence. Et ce sentiment d'unité de l'Espagne s'est manifesté de diverses manières ces dernières années. Par exemple, les indignés n'avaient aucun drapeau, qu'il soit régional ou national espagnol. Mais la diffusion extrême de ce mouvement dans toute l'Espagne montre bien que les citoyens espagnols, notamment les jeunes, mais ça va au-delà, étaient confrontés aux mêmes problématiques où qu'ils habitent en Espagne, et ce depuis plusieurs années. Dans des circonstances encore plus dramatiques, après les attentats d'août 2017 en Catalogne, il y a eu aussi, comme ce fut le cas après d'autres attentats de l'ETA dans les années précédentes, un sentiment de solidarité qui touchait toute l'Espagne, et c'était normal parce que toute l'Espagne était visée par ces attentats à Barcelone.
Et qui a permis peut-être d'une certaine manière de resserrer les liens de la nation, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Et Sophie Babi, comment est-ce que vous percevez l'évolution de ce sentiment national? Est-ce qu'il vous paraît fragile aujourd'hui en Espagne? Et alors au-delà des événements tragiques qui peuvent être des moments où la nation reprend conscience d'elle-même, quels sont selon vous aujourd'hui les socles, vraiment les socles communs qui rassemblent tous les Espagnols?
Alors, pour revenir sur le sentiment national espagnol a toujours été faible. Ça, c'est une caractéristique du nationalisme espagnol, c'est-à-dire que la construction de la nation Espagne au XIXe siècle ne s'est pas faite de la même façon qu'en France ou en Angleterre, ou si on prend un autre modèle, ou même en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable déficit dans la construction de l'identité nationale espagnole, et que donc la faiblesse est structurelle de ce nationalisme espagnol, ce qui a laissé la place en quelque sorte à l'épanouissement d'autres types de nationalisme, régionaux, identitaires, culturels, avant de devenir politique. Sous le franquisme ensuite, donc pendant cette longue période de 40 années de franquisme, le franquisme s'est approprié et a exacerbé finalement les symboles nationaux à l'extrême, hein, le drapeau, les hymnes, etc. Ce qui fait qu'au moment de la transition à la démocratie, donc de l'installation durable de la démocratie, il y a eu sans aucun doute un retrait de ce nationalisme espagnol, hein, de ce sentiment national espagnol, et la nation s'est fondée sur d'autres choses, hein, sur un consensus, on pourrait y revenir plus tard. Et donc aujourd'hui, clairement, la question territoriale, donc qui se cristallise avec la Catalogne, hein, mais qui est une question qui pose problème en Espagne depuis une quinzaine d'années, hein, qui est sans cesse débattue, la question de la configuration territoriale de l'Espagne. Sans aucun doute, donc, cette question catalane a remobilisé, hein, les troupes nationalistes espagnoles et a provoqué donc la résurgence des drapeaux, etc. La naissance ou la renaissance d'une extrême droite qui était longtemps absente en Espagne, non pas que les troupes, je dirais, n'existaient pas, mais elles n'étaient pas représentées par un parti politique avec une telle audience. Bon, mais comme l'a dit Cyril Trépied, on peut très bien être favorable à l'unité nationale espagnole et être de gauche, ça me paraît une évidence. Donc oui, le sentiment national et les vecteurs d'identification à l'Espagne sont faibles en Espagne. Et en particulier, donc, pour la démocratie, il reposait sur un certain nombre de valeurs, hein, qui étaient notamment le consensus, le dialogue, le pacte entre les uns et les autres, la nécessité de mettre fin aux conflits du passé, la nécessité de mettre fin à la guerre civile, d'accord, dans les années 70-80. Bon, bien, le ciment national reposait aussi sur la monarchie, qui a ce moment-là servi de vecteur de rassemblement, bien tous ces piliers-là, petit à petit, se sont effrités, en fait, depuis le début des années 2000. D'accord. Et donc, on a commencé à parler de la crise du régime de 78. 78, c'est l'année de la Constitution espagnole. Et donc, cette crise du régime de 78 s'accompagne aussi d'une crise du sentiment national espagnol.
Et justement, Sophie Babi, on va faire un petit retour en arrière. L'unité, vous l'avez dit, elle repose sur des valeurs, mais aussi sur un événement historique.
Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles Je confirme que j'ai ordonné aux autorités civiles et à la junte des chefs d'état-major de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour maintenir l'ordre constitutionnel dans le cadre légal actuel. Toute mesure de caractère militaire qui, le cas échéant, pourrait devoir être adoptée, devra recevoir l'approbation de la junte des chefs d'état-major.
La corona.
La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne saurait tolérer en aucune façon des actions ou des attitudes de personnes qui prétendraient interrompre par la force le processus démocratique que la Constitution votée par le peuple espagnol a fixé en son temps au moyen d'un référendum.
Vous l'avez reconnu l'un et l'autre, j'imagine, c'était l'allocution du roi d'Espagne, Juan Carlos, à l'issue de la tentative de putsch du 23 février 1981. Le roi Juan Carlos qui dit « La couronne est le symbole de la permanence et de l'unité de la nation espagnole ». Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, Sophie Babi ?
En tout cas, c'est plus trop le cas pour une bonne partie de la population espagnole. On va dire que la couronne a été fortement décrédibilisée ces dernières années à cause des scandales de corruption. Souvenez-vous que le gendre de Juan Carlos, donc l'ancien roi, c'est-à-dire le beau-frère du roi actuel, hein, Philippe VI, est quand même en prison. Voilà, il a été poursuivi pour corruption, délit malversation de fonds publics, et il a été condamné l'année dernière, et il est en prison depuis un an.
Mais est-ce que ces scandales de corruption suffisent à expliquer la perte de légitimité de la monarchie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs ?
Bien sûr, mais c'est quand même assez important. Ensuite, on va dire que face à la crise catalane, Philippe VI est intervenu aussi. Et on a d'ailleurs comparé ce discours du nouveau roi à celui que vous avez passé là, qui est le discours de Juan Carlos après le coup d'État, la tentative du coup d'État du 23F, puisque c'était la première fois qu'un roi intervenait de nouveau en public, hein, à la télévision pour s'exprimer sur une affaire, une question politique. D'accord ? Et bien à ce moment-là, ce discours du roi, s'il a été effectivement, louangé. Il a reçu beaucoup de louanges de la part des défenseurs de l'unité nationale, etc. A été très fortement critiqué par d'autres groupes politiques et ça a été perçu comme un peu une étape manquée, hein, de la part de la monarchie à ce moment-là. Donc la perte de crédibilité de la couronne, elle est aussi liée à l'apparition de partis républicains. L'apparition de partis républicains qui ne cessent de s'épanouir en Espagne, en premier lieu donc dans les régions périphériques, à savoir en Catalogne, hein, le RC, la gauche républicaine catalane, mais aussi au Pays Basque et bien sûr le parti de gauche Podemos, qui n'est absolument pas monarchiste. Et donc la question de du choix type d'État en Espagne, se repose à nouveau depuis une quinzaine d'années.
Cyril Trépied, est-ce que vous partagez cette analyse selon laquelle Philippe VI, lors de son allocution en octobre 2017, au moment de la crise catalane, n'est pas parvenu, n'a pas réussi à trouver cette posture de conciliation, de modération qui aurait permis de ressouder les liens et qui, cette intervention a plutôt mis de l'huile sur le feu et qui a donc aussi écorné la légitimité, en tout cas du côté catalan, de la monarchie.
Sa tâche à ce moment-là était particulièrement rude et différait sensiblement. Celle de Juan Carlos en 80 était extrêmement complexe aussi, mais sa cible était très différente. D'abord, c'était pas un mouvement armé, mais il s'agit toujours d'un mouvement beaucoup plus ample que celui de Tejero. Effectivement, il était attendu au tournant et il était difficile d'imaginer un dialogue, un discours pouvant concilier vraiment tout le monde en totalité. Mais effectivement, Sophie Babi l'a rappelé, le républicanisme en Espagne, et notamment en Catalogne, mais pas seulement, est important. Et au sein de l'indépendantisme catalan, c'était une réalité ancienne.
Est-ce que vous pensez que la crise catalane pourrait être l'occasion peut-être de repenser les structures administratives et démocratiques de l'Espagne, à savoir est-ce que l'Espagne, dans les années à venir, pourrait se diriger vers une véritable république ?
Je me garde de pronostic déjà sur le résultat des élections de dimanche, donc à plus forte raison pour quelque chose comme ça, mais oui, c'est possible. Maintenant, effectivement, la monarchie fait partie du consensus constitutionnel qui a été obtenu avec des risques extrêmement élevés en 1978 et dans les années immédiatement ultérieures. Il faut bien rappeler à propos de la Catalogne que la Catalogne n'est pas une île et que, comme ça a été rappelé, il n'y a pas qu'en Catalogne, au sein de l'Espagne, qu'il y a un mouvement indépendantiste important. Et ça, c'est une singularité forte de l'Espagne par rapport à d'autres territoires, comme le Royaume-Uni ou comme le Canada, qui ont pris la décision d'organiser un ou des référendums d'autodétermination dans l'un de leurs territoires. En Espagne, il y en a plusieurs, il y en a au moins deux, la Catalogne et le Pays Basque. Et donc, réorganisation de l'Espagne doit tenir compte des aspirations non seulement de la Catalogne, mais de l'ensemble, au moins des 17 communautés autonomes d'Espagne. Et plus largement, dès que la Catalogne a obtenu un peu plus d'autonomie, il y a deux ou trois autres régions d'Espagne qui ont exigé des décisions similaires en leur faveur.
Sophie Babi, la place de la monarchie dans la construction démocratique de l'Espagne, c'est un héritage historique hein, de post-dictature. Est-ce que on est une bonne génération après la transition démocratique? Est-ce que ce consensus national forgé au moment de la transition démocratique, est-ce que l'Espagne est en train de tourner cette page? De fait, peut-être naturellement, de nouvelles générations qui arrivent et qui craignent moins les fantômes du franquisme.
Oui, bien sûr, il ne fait aucun doute qu'il y a un changement de génération depuis une quinzaine d'années et que les générations actuelles sont beaucoup moins marquées, hantées par la répression franquiste, encore moins bien sûr par la guerre civile et surtout par les risques d'un coup d'État et d'un retour à un conflit civil aigu. Donc les aspirations politiques peuvent s'exprimer de façon beaucoup plus libre et de façon différente. Alors la monarchie, vous l'avez dit, hein, elle est héritée, c'est un héritage historique, puisque c'est le général Franco lui-même qui avait placé désigné Juan Carlos comme son successeur. Et donc là, à sa mort, c'est logiquement le roi Juan Carlos qui a pris la suite. Et cette nomination a en quelque sorte permis de rassurer les factions les plus extrêmes et les plus favorables au maintien du franquisme et de permettre donc un changement de régime sans trop heurter ce secteur et en particulier les militaires. Bon, on a vu que ça n'avait pas empêché une tentative de coup d'État en 1981, mais globalement, l'armée s'est à peu près tenue tranquille. Bon. Et ensuite, les Espagnols ont voté en référendum, une constitution en 1978. Et dans cette constitution, disait que l'Espagne était une monarchie. Mais à aucun moment, ils n'ont voté pour une monarchie ou une république. Voilà. Et c'est un argument qui est sans cesse brandi aujourd'hui.
Alors ensuite, c'est-à-dire que la monarchie est moins une évidence que ce qu'il n'y paraît historiquement.
Exactement. Ah, exactement. N'oublions pas que le régime de Franco donc est parvenu au pouvoir en 1939 après une guerre civile de 3 ans et qu'avant cette guerre civile, il y avait une république. C'était la Seconde République. Le roi étant parti en exil, hein, c'était le grand-père de Juan Carlos. Et c'est contre cette république que s'est soulevé général Franco. Donc non, la monarchie n'a rien d'évident en Espagne. C'est pas du tout comparable à la Grande-Bretagne, si vous voulez, au Royaume-Uni.
Et cette Seconde République avant la guerre civile, Sophie Babi, justement. La voilà qui se rappelle à la mémoire aujourd'hui des Espagnols.
Deux personnes qui ont été obligées d'abandonner l'Espagne en 1939, à la fin de la guerre civile, sont Antonio Machado et Manuel Azaña, un des plus grands poètes de la littérature espagnole de tous les temps et le dernier président de la Seconde République espagnole. Les deux sont morts en France, loin de leur terre. Aujourd'hui, j'ai pu me rendre sur leur tombe et y déposer, au nom de l'Espagne, le respect de leur patrie qui jadis leur a été refusé. C'est tard, c'est très tard, c'est vrai. De nombreuses années sont passées depuis leur exil. L'Espagne aurait dû leur demander pardon bien plus tôt pour cette infamie.
C'était un hommage du président Pedro Sanchez aux 450 000 républicains exilés, et notamment à un poète célèbre et aussi au dernier président de la Seconde République. C'était en France le 24 février 2019. Il se trouve qu'avril 2019, on commémore aussi les 80 ans de la fin de la guerre civile et donc de la victoire du franquisme. Comment cet anniversaire vient d'une certaine manière aussi percuter les conflits actuels, Cyril Trépied?
Alors on peut rappeler, je suis très heureux que vous passiez ce son de Pedro Sanchez parce qu'il fut le premier président espagnol à se rendre en France pour rendre hommage aux exilés espagnols qui ont quitté l'Espagne dans des conditions effroyables et qui ont, pour une bonne partie d'entre eux, participé à la libération de la France malgré leur passage dans des camps de rétention. Je pense que ça a d'abord été effectivement, ça venait tard, mais c'était important de poser ce geste qui, encore une fois, était le premier. Alors, on pouvait entendre à l'arrière-plan des cris derrière Pedro Sanchez. Effectivement, il y a eu des manifestations indépendantistes catalanes contre lui, mais c'était une répétition, une continuation des manifestations pour l'indépendance catalane qui avaient lieu avant et qui ont lieu après. Mais c'était important. Je crois que cet hommage a prévalu l'anniversaire, la commémoration de la fin de la guerre civile.
Sophie Babi, on parle parfois de l'expression pacte d'oubli pour qualifier le moment de transition démocratique au moment de la fin du franquisme, de la retour de la démocratie. Sous-entendu, la démocratie se fera au prix de l'oubli et de l'absence de jugement des crimes commis sous le franquisme. Mais est-ce que ce pacte d'oubli aujourd'hui est en train de se fissurer, en train d'être remis en cause? Est-ce que l'intervention de Pedro, cet hommage de Pedro Sanchez participe de cette dynamique?
Oui, bien sûr, mais donc c'est ce geste hautement symbolique de Pedro Sanchez s'inscrit dans une dynamique qui est bien plus ancienne et qui remonte au début du 21e siècle, et notamment son prédécesseur José Luis Rodríguez Zapatero, hein, quand il était au gouvernement, donc le dirigeant socialiste, quand il était au gouvernement à partir de 2004. Mais pour comprendre cela, je pense qu'il faut revenir un peu à cette expression pacte d'oubli, hein, et comprendre ce que ça signifie. Une expression qui est associée à une loi, qui est la loi d'amnistie de 1977, et qui est une loi en fait qui avait pour sens de mettre fin à la guerre civile à retardement, c'est-à-dire 40 ans après, hein, de mettre fin à la guerre civile, de conclure, comme le dit Paul Ricoeur, hein, de graves épisodes de désordre politique qui affectaient la paix civile. Donc l'amnistie était censée interrompre un cycle de violence, un cycle de vengeance, dans un objectif de réconciliation entre citoyens et ennemis. Donc il ne faut pas oublier que l'oubli, donc qui se concrétise dans une amnistie, est un instrument privilégié de règlement des conflits depuis des siècles. Et on fait souvent remonter cela à un décret d'amnistie promulgué à Athènes en 403 avant Jésus-Christ. Donc l'oubli était inscrit dans la construction de l'avenir de la cité. Bon. Donc c'est cette forme d'oubli institutionnel dans lequel s'inscrit l'Espagne. L'idée étant donc de laisser de côté les crimes du passé, de ne pas se balancer les crimes du passé à la figurent les uns des autres pour construire l'avenir démocratique.
Oui, mais est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui? C'est la question.
Bien sûr que non. Cela ne fonctionne plus du tout aujourd'hui. Donc, depuis le début des années 2000, il y a eu la renaissance d'un mouvement mémoriel qu'on appelle un mouvement de récupération de la mémoire historique, qui a considéré que ce pacte d'oubli était injuste. Et donc, il a reposé d'abord sur la quête des corps qui étaient encore enterrés dans des fosses communes, qui n'avaient même pas reçu de sépultures dignes, hein, qui n'étaient pas enterrés dans des cimetières, qui n'étaient même pas identifié, et ensuite donc sur la remise en cause de cette absence de justice, de réparation aux victimes du franquisme. Et donc ça remonte au début des années 2000, tout un mouvement qui est venu du bas, une impulsion qui est venue de la société civile, c'est un mouvement citoyen, qui a trouvé ensuite un écho politique et un relais politique dans le mouvement de dans le gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero, qui a fait adopter une loi en 2007 qu'on appelle la loi de récupération de la mémoire historique, et qui a ensuite été aussi au cœur de l'agenda politique de Podemos, hein, de la naissance du parti Podemos. Tout ce mouvement-là a été un peu mis à l'écart par les gouvernements de droite avec le retour du PP au pouvoir, et Pedro Sánchez, l'année dernière, quand il est revenu au pouvoir, en a fait un des enjeux clés de ces quelques mois de gouvernement, en proposant notamment donc l'exhumation de Franco.
Pardon, Sophie Babian vous a coupé.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
On est en votre compagnie, Cyril Trépied, Sophie Babi. On continue à parler de mémoire et de justice.
S'il y a bien une chose qui me fasse sortir de mes gonds, c'est quand les gens disent « c'est un sentiment de vengeance qui vous anime ». On pourrait estimer que je cherche à me venger si l'on considérait que la justice équivaut à la vengeance.
En 2010, devant l'impossibilité de demander aux institutions espagnoles que justice leur soit faite en raison de cette fameuse loi d'amnistie de 1977, eh bien certaines victimes du franquisme ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux argentins. Une longue aventure juridique que les documentaristes Almudena Caracedo et Robert Bahar ont immortalisé dans leur film « Le silence des autres ». Il est sorti en février et il est encore en salle actuellement. Almudena Caracedo au micro de Corentin, bonsoir.
Effectivement, en 2010, un groupe de victimes et supervivientes de la
Effectivement, en 2010, un groupe de victimes de la dictature de Franco décida d'aller en Argentine déposer une plainte devant un tribunal argentin. Ceci était basé sur le principe de la justice universelle qui dit que tout pays du monde peut engager des poursuites concernant un crime quand le pays où il a été commis refuse de le faire. À l'origine de ceci, il y a le juge Baltasar Garzón qui avait été pionnier. La justice espagnole avait été pionnière dans l'application de ce principe quand le juge Baltasar Garzón décide de s'attaquer au crime franquiste. Finalement, il y a une série de procès, on le sanctionne et il quitte la profession. Par conséquent, il est clair qu'il n'est pas possible de juger de telles affaires en Espagne. Et au moment où les portes de la justice se ferment en Espagne, les victimes décident d'avoir recours à une autre justice et, dans ce cas-là, à 10 000 km de distance. Il y a beaucoup de cas ouverts avec d'autres procès concernant d'autres dictatures, précisément selon le principe de la justice universelle.
Le processus judiciaire s'est étalé sur plusieurs années et il doit beaucoup à la juge argentine en charge de l'affaire, Maria Servini. Pourquoi s'est-elle autant engagée dans cette affaire ?
À l'origine, l'affaire a été confiée à cette juge car la Constitution argentine prend en compte la justice universelle. Le dossier lui a été confié, elle n'a pas choisi cette affaire. Mais plus tard, en effet, elle s'est pleinement engagée. Elle est juge depuis de très nombreuses années, elle a survécu à de nombreux changements politiques, et de plus, c'est une juge qui a travaillé sur la question des enfants volés en Argentine, et par conséquent, je pense, mais il faudrait lui demander, que c'est quelque chose qui la touche. Mais même comme ça, la juge, comme tous les juges, doit avoir une certaine objectivité, une certaine manière de regarder. Mais oui, ça a été très important. Le procès se poursuit. Il est actuellement bloqué par la justice espagnole au niveau des commissions rogatoires que la juge a envoyées. Elle a en fait demandé l'extradition de différentes personnes pour pouvoir les juger, et la justice espagnole a refusé de les extrader et aussi d'autoriser les auditions sur le sol espagnol. Donc le procès est bloqué, mais il continue sous d'autres formes. Il y a de plus en plus de gens qui s'associent à la plainte. Par exemple, avec le film, on nous a dit « un tel et un tel se sont associés à la plainte car ils ont vu le film ». Ou, ils ont vu le film et ils pensent que c'est important. En ce sens, le processus se poursuit. Le film continue, autant pour rendre visibles les victimes et les survivants que pour toucher tous ces gens qui ne savaient rien.
Les crimes en question dans ce film, ils sont vieux de plusieurs années. Est-ce que vous avez eu du mal à recueillir les témoignages ? Et les personnes avaient-elles besoin de l'espace offert par la réalisation de ce film ? Ou bien était-ce difficile de parler de ses souvenirs au début ?
Pues mira, un poco las dos cosas.
Un peu les deux choses. Quand nous sommes arrivés, quand nous avons commencé à filmer la plainte en Argentine, nous avons commencé à filmer un certain nombre de plaignants, des personnes qui avaient décidé de briser le silence et de devenir acteurs, et pas seulement pour être des victimes, pour ainsi dire. C'est pour cela que nous parlons toujours de victimes et de survivants. C'est très important, parce qu'ils sont à la fois victimes et survivants. Ce sont des acteurs de leur présent. Ils ne se contentent pas de recevoir ou d'être des victimes. Ils s'organisent aussi pour lutter pour la justice. Beaucoup avaient besoin de parler avec nous et ils le voulaient. Dans d'autres cas, nous avons rencontré des personnes qui ne s'étaient pas encore associées à la plainte. Cependant, ce que nous avons toujours observé, c'est un besoin incroyable de parler, de raconter. Raconter ce qui est arrivé à ma famille, à cette autre famille, à mes grands-parents, à mes oncles et tantes, à mes arrière-grands-parents. Et ce besoin de parler, de raconter, c'est rompre le silence, évidemment. C'est un silence qui a été rompu, il y a toujours de la peur, surtout chez les plus âgés. Mais c'est un sentiment qui a disparu avec les générations, sans aucun doute. Cette peur n'existe plus chez les jeunes. Ce qui existe, c'est ce que nous avons constaté avec le film à travers des centaines et des centaines de débats. Ce qui existe, c'est un énorme besoin de savoir et d'indignation aussi. Car quand les jeunes apprennent l'histoire qui leur a été cachée, ça provoque une indignation, une rage très forte par rapport à cette histoire qui leur a été volée.
Supone una indignación muy fuerte, una rabia muy fuerte, ¿no? Por esa historia que se les ha robado.
À un moment donné dans le film, on suit l'un des protagonistes, Chato, en train de visiter un centre mémoriel en Argentine, et il est bien surpris que les collégiens argentins aient cette chance, tandis que les Espagnols ne l'ont pas. Est-ce que ça vous semblait important de souligner ces différences mémorielles?
Oui, bien sûr. Il était très important pour nous de montrer comment dans d'autres pays un processus mémoriel différent a été mis en œuvre. Car souvent, quand on est au cœur d'un phénomène, il est très difficile de comprendre que ce phénomène est similaire à beaucoup d'autres. C'est pour ça qu'il était très important de voir que d'autres pays, comme l'Allemagne, l'Argentine, auxquels on fait référence dans le film, ont géré le passé de manière différente. Les centres de torture transformés en mémoriaux, on a jugé et on continue de juger des tortionnaires, mais également des juges. On juge des juges qui ont jugé. Alors qu'en Espagne, la vérité, c'est que nous sommes effectivement à des années-lumière de tout ça. C'est pour ça que Chato dit « Le jour où je verrai une classe de collégiens entrer dans le lieu où j'ai été torturé, je pleurerai. » Car on est encore très loin, mais pas tant que ça. Nous sommes plus loin que l'Argentine, mais nous sommes plus près qu'on le croit. Je suis convaincu que nous ne sommes pas si loin.
Votre film, il a été très bien reçu par la critique, puisqu'il a notamment remporté le prix le plus prestigieux du cinéma espagnol, le prix Goya, dans la catégorie documentaire. Comment l'a recueilli le public et surtout, quelles ont été les réactions des personnalités publiques?
Ay, muy buena pregunta. Nuestra estrategia...
C'est une très bonne question. Notre stratégie depuis le début a été de commencer depuis l'extérieur. Commencer hors de l'Espagne, parce que, comme c'est un sujet délicat, nous voulions arriver de l'étranger avec des critiques, des prix, c'est-à-dire pour que les gens ici puissent dire « Je n'aime pas ce film, mais ce n'est pas un mauvais film. Il ne m'a pas plu pour d'autres raisons. » Quand nous sommes arrivés en Espagne, quand le film est sorti en novembre, nous avions déjà 10 ou 12 prix internationaux et de très bonnes critiques. Mais nous avons été très surpris, tous les deux, et de manière positive, par la réaction du public. Elle est émotionnelle, très très émotionnelle. Il y a aussi une belle réponse pour le débat, ce dialogue que nous souhaitons ouvrir avec le film. La critique a aussi été incroyablement positive. 60 médias en ont rendu compte, presque toujours de manière positive. Ça nous a surpris, y compris un média de droite comme La Razón a titré son article « Et si nous oublions le pacte de l'oubli ?» Ça avait suscité le débat. Il y a 8 ans, quand on a commencé le film, on ne parlait pas de ce sujet. Les politiciens n'en parlaient pas. Ce n'était pas aux infos, pas à la télé, pas dans les médias. Le film est arrivé à un moment très particulier où le clapet s'était ouvert et nous étions là pour être un outil.
Voilà, c'était Almudena Caracedo, la réalisatrice du film Le silence des autres au micro de Corentin Monsois, film qui est encore à l'affiche actuellement. Je ne sais pas si vous l'avez visionné, l'un et l'autre. Réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre, Cyril Trépied?
Eh bien, c'est un très beau travail que Almudena Caracedo et son collègue ont déployé avec ce film. Il faut que je le voie pour répondre à votre question. Effectivement, il s'agit d'aller à la rencontre de mémoires éminemment personnelles et éminemment douloureuses d'une guerre civile dont, effectivement, on peut décréter du point de vue politique, l'oubli. Mais l'oubli peut pas totalement se décréter à partir du moment où il s'agit d'une guerre civile, c'est-à-dire d'un affrontement qui a pu se dérouler au sein même de dizaines de milliers de familles. Donc c'est important d'avoir réalisé ce travail. Et effectivement, dans la comparaison que le film faisait et sur lequel portait l'interview aussi avec l'Argentine, il faut rappeler que dans les nombreuses compétences des communautés autonomes figure l'enseignement. Cela veut dire que, par exemple, les programmes d'histoire sont non pas un programme national, mais des programmes propres à chaque communauté autonome. Et ça a pu permettre de raconter parfois 17 histoires au lieu d'une seule.
Et on a vu des différences majeures sur l'enseignement du franquisme, notamment, selon les régions?
Oui. Effectivement, il y a une partie de cet enseignement en Catalogne qui, dans les écoles publiques, a pu contribuer à l'idée que l'Espagne, c'était un autre pays et que ce qui existe chez certains historiens catalans de sensibilité nationaliste, que cette guerre civile fut une guerre de toute l'Espagne contre toute la Catalogne, ce qui était éminemment faux au regard ne serait-ce que des soutiens qu'a eu Franco en Catalogne même.
Sophie Babi, une réaction à l'entretien qu'on vient d'entendre, que vous ayez vu ou pas le film?
Oui, alors bien sûr, j'ai vu le film en Espagne d'ailleurs. C'est un film absolument magnifique et je suis très heureuse d'avoir pu écouter cette interview de Almudena Caracedo, qui est très intéressante parce que ce qu'elle dit notamment sur la stratégie internationale qu'elle a adoptée, enfin que elle et sa boîte de production, hein, puisque c'est un film qui est coproduit par Almodovar notamment, a été une stratégie donc internationale avant d'entrer en Espagne. Et c'est en fait la même stratégie qu'ont les acteurs du mouvement de récupération de la mémoire historique, hein, ces acteurs qu'elle filme, qui vont à l'international aussi pour essayer de trouver un écho à leurs revendications, à leur cause, qui est inaudible en Espagne, au moins du côté de la justice espagnole qui est totalement bloquée à cause de cette loi d'amnistie. Et donc ils font appel à la justice universelle et donc à l'Argentine. C'est intéressant aussi la référence à l'Argentine et le fait que la procédure judiciaire ait été entamée là-bas, puisque c'est un des seuls pays au monde aujourd'hui à maintenir ce type de procès au nom de la compétence universelle et qui a donc lui-même entamé tout un tas de procès, une quantité impressionnante de procès dans les années 2000 de sa propre dictature, donc des années 70. C'est aussi une façon de rendre, je dirais, la monnaie de sa pièce à l'Espagne, puisque le juge Garzón, qui est celui qui a donc, Baltasar Garzón, hein, qui a tenté de faire le procès du franquisme en Espagne en 2008 et puis ça n'a pas fonctionné, c'est celui qui avait donc inculpé le général Pinochet et d'autres militaires, donc qui est chilien, hein, mais des militaires argentins de la junte aussi. D'accord ? Donc au nom du principe de la compétence universelle qui était lui-même accepté en Espagne. Donc en Espagne, on a pu juger donc la dictature chilienne et la dictature argentine à la fin des années 90, mais on ne peut pas juger la dictature espagnole.
Et justement, les autorités espagnoles, Almudena Caracedo l'évoque à un moment donné, ne lui ont pas facilité la tâche.
Non, bien sûr. Bien sûr, la justice espagnole refuse, hein, et le gouvernement de droite, qui était le gouvernement de droite à ce moment-là, refuse bien entendu d'extrader les inculpés, d'autant que parmi eux, il y a quand même un ancien ministre, plusieurs anciens ministres, dont l'ancien ministre de l'Intérieur de l'époque de la transition, qui est Rodolfo Martín Villa. Donc le gouvernement et la justice espagnole s'opposent donc à cette procédure de façon tout à fait... radical. Oui.
À l'instant, Cyril Trépied, Sophie Babi parlait d'un enseignement, d'un récit national différent selon les régions, et c'est dû aux compétences propres des régions autonomes. Je reviens un moment sur la Catalogne et l'actualité catalane. Au moment de la répression policière lors du référendum illégal qui avait été organisé en octobre 2017, on a vu certains Catalans indépendantistes comparer cette répression à la répression franquiste. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans cette comparaison, ou est-ce qu'il y a aussi une part d'instrumentalisation de l'histoire ? Qu'en pense l'historienne ?
Alors, on est clairement dans un moment d'instrumentalisation de l'histoire, mais qui est très compréhensible et qui repose sur une réalité historique, hein, qui est que la transition espagnole s'est faite sur la continuité, à reposer sur le principe de continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'épuration. On le comparait par exemple à l'Allemagne d'après Hitler, ou à la France post-Vichy. Il n'y a eu aucune purge, aucune épuration. Donc les policiers, les militaires, les juges étaient les mêmes que sous le franquisme. D'accord. Donc forcément, des habitus de répression, de violence hérités du franquisme, ont perduré pendant la transition et un petit peu en démocratie. D'accord. Et il y a donc des résidus du franquisme dans certaines structures de l'État, encore de la magistrature et des corps de police, etc. etc. Bon, donc ça, c'est une réalité. Ensuite, c'est comme on parlait au début des prisonniers politiques. Dire tout ça, c'est considérer que l'État espagnol aujourd'hui n'est pas une démocratie. Or, clairement, on est dans un système démocratique avec ses imperfections, ses frustrations, ses erreurs, etc. Mais dans une démocratie qui fonctionne. En revanche, faire appel à la répression, à la mémoire de la répression franquiste, fonctionne. Voilà, c'est un ressort qui fonctionne chez ces populations, en particulier les populations donc des régions, hein, Catalogne, Pays Basque, qui ont été réprimées dans leur expression identitaire pendant les années du franquisme.
Perdida la paz. Perdida la causa, perdido los sueños, perdida la patria, perdidos de todo.
Perdida la causa, un hommage hein, du chanteur espagnol Luis Pastor aux républicains espagnols dans cette belle chanson Los Hijos d'España que vous connaissez, j'ai l'impression, Cyril Trépied.
Un petit peu, oui, c'est une très belle chanson.
Merci infiniment à tous les deux, Cyril Trépied et Sophie Babi, de nous avoir éclairés pour ce dernier volet de notre série sur l'Espagne. Je rappellerai pour vous, Cyril Trépied, pour aller plus loin, l'indépendance catalane en question, parue aux éditions Atlante l'année dernière, coécrit avec Manuel Pelloil et Serge Puge. Et puis pour vous, Sophie Babi, eh bien on peut lire Histoire de l'Espagne contemporaine de 1808 à nos jours politique et société, coécrit avec Jordi Canal et Stéphane Michonneau, et c'était aux éditions Armand Collin. J'en profite aussi pour remercier les studios France Bleu Provence à Aix-en-Provence de vous avoir accueillis pour le duplex.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
La conquête de l'Amérique au XVIe siècle, nous dit-on, démontrait la supériorité technique des Européens.
Oui, les Espagnols et les Portugais ont conquis les Amériques au XVIe siècle avec vraiment très peu d'hommes. C'est à cause de la supériorité que les Européens avaient acquise dans les guerres continuelles auxquelles ils se livraient entre eux. Leurs armements, leurs tactiques militaires devinrent par la suite tellement supérieurs à celles des autres puissances de leur époque qu'ils sont parvenus à installer leur domination sur le monde entier. Telle est la thèse de la supériorité technique de l'Occident et de la révolution militaire européenne. Eh bien, oubliez-la, elle est fausse. En tout cas, partiellement fausse. La domination militaire de l'Occident n'a été qu'une parenthèse de deux petits siècles, bien peu à l'échelle de l'histoire universelle. Phébé, lettre confidentielle en français avec pour slogan une idée d'avance, m'a fait découvrir un livre d'histoire qui fait grand bruit dans le monde intellectuel anglo-saxon. Ça s'appelle Empires of the Weak, The Real History of European Expansion and the Creation of the New World Order. Et c'est l'œuvre d'un universitaire britannique, Jesse Sharman, qui enseigne l'histoire des relations internationales à Cambridge. Mais le New York Times lui a consacré un article hyper élogieux car Sharman met en pièce la thèse de la supériorité militaire européenne. Les Européens, explique Sharman, se sont longtemps raconté des histoires. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, leur fameux empire ne consistait qu'en des comptoirs, situés à la périphérie des vrais grands empires, en particulier ceux des Ottomans, des Moghols et des Kings. Et si ceux-ci toléraient leur présence sur les franges maritimes de leurs immenses états continentaux, c'est parce qu'ils y trouvaient leur compte sur le plan commercial. Les Européens, des commerçants, voulaient parcourir les mers, eh bien, libre à eux.
Il y a tout de même eu, Brice, le cas de la conquête des Amériques. Et là, il ne s'agissait pas seulement de comptoirs situés sur les côtes.
Oui, vous avez raison, Mélanie. Cortés a attaqué l'Empire Aztèque avec 400 soldats et Pizarro n'en avait que 170 lorsqu'il s'en est pris à l'Empire Inca. Mais le premier a utilisé la ruse et il a fédéré les ennemis des Aztèques. Il a dû sa victoire, c'est bien connu, à la croyance de l'empereur Moctezuma dans le retour du dieu Quetzalcoatl. Et la supériorité militaire des Espagnols d'ailleurs a été très exagérée par les historiens européens. Les hommes de Pizarro n'ont d'ailleurs utilisé que leurs épées et non pas les mousquets qu'ils utilisaient sur les champs de bataille européens. Bien maigre supériorité technologique, convenez-en. Mais les Espagnols apportaient avec eux des maladies infectieuses face auxquelles les Indiens n'étaient pas immunisés, en particulier la variole et le typhus. Enfin, la pénétration des conquistadors au XVIe et XVIIe siècle en Amérique a été très surestimée par les Européens. Et lorsqu'un nouvel ordre international s'est dessiné à la fin du XVIe siècle, les petites nations européennes n'y jouèrent qu'une partition modeste.
Mais selon votre historien britannique, Brice, nous serions restés longtemps persuadés du contraire.
Mais oui, parce que l'une des grandes idées de Jesse Sharman, c'est qu'on réécrit toujours l'histoire du point de vue du vainqueur. Or, l'histoire mondiale ayant connu une réelle hégémonie européenne fort brève, quelque part entre la fin du XVIIIe siècle et la moitié du XXe, des lumières donc à la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, les historiens se sont persuadés que celle-ci était inscrite dès le départ en 1492, et ce n'était pas le cas. Je cite Sharman, « Si les petites victoires européennes ont bénéficié d'une telle publicité, c'est que les Européens allaient gagner à la fin ». Alors que les empires ottomans, moghols et chinois, qui étaient bien plus puissants, ont eux perdu à la fin. Mais même ces victoires finales n'ont pas le caractère massif que les Européens se sont plu à prétendre. En Algérie, la France dut déployer jusqu'à 100 000 soldats dès le milieu du XIXe siècle pour l'emporter. Le plus amusant, ajoute Sharman dans ses interviews, c'est que les universitaires déconstructivistes, les tenants de l'école post-coloniales reprennent à leur compte les légendes de la supériorité technique et militaire de l'Occident à l'appui de leur thèse. Ce qui intéresse aussi Sherman, c'est l'idéologie impériale. Comment certaines nations européennes ont pu imaginer que la domination de territoires immenses situés à des milliers de kilomètres de leur capitale allait les enrichir ? Eh bien, tel ne fut pas le cas. Quant au mythe de l'hyper-rationalité des Occidentaux qui leur aurait assuré une supériorité incontestable, eh bien il en rit, je le cite, « Les grandes organisations, dit-il, y compris les armées et les États, n'apprennent pas à devenir plus efficaces et ne sont pas pénalisées pour leur inefficacité. » La grande leçon de cette révision historique, c'est que la fermeture de la parenthèse européenne de l'histoire annonce une espèce de retour à la norme de toujours, à savoir la domination des grands empires continentaux asiatiques, la Chine et l'Inde.
Merci beaucoup Brice Couturier. Votre chronique à retrouver et réécouter sur franceculture.fr.